Bonjour à toutes et à tous. Ce que je n'ai pas salué ce matin. Nous sommes dans le livre de Matthieu depuis plusieurs semaines, voire des mois. Et nous allons tourner dans le livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. Évangile de Matthieu. Chapitre 5, nous allons lire à partir de verset 33 jusqu'à 37. Matthieu 5, à partir de verset 33 jusqu'à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré » par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'il ajoute vient du malin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ça a l'air très simple. Oui, c'est simple. Mais, vous savez, la parole de Dieu, c'est un trésor que nous devrions creuser pour comprendre. Tout premièrement, je tiens à vous dire que je suis béni dans notre série d'études sur l'évangile de Matthieu depuis maintenant plusieurs mois. Personnellement, je sens très béni. Surtout, nous les chrétiens, nous pensons aux 10 commandements dès que nous sommes appelés à l'obéissance à la parole de Dieu. Tout de suite, quand on dit qu'il faut obéir la parole, on pense aux 10 commandements. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas commettre l'adultère. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Parfois, je pense que nous ne sommes pas meilleurs que le peuple juif de l'Ancien Testament. Or, qui que nous sommes de la Nouvelle Alliance, nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté. Nous voyons ici, dans le sermon sur la montagne, que Dieu a mis la barre très haut. Nous avons vu la semaine dernière, la semaine avant, et plusieurs semaines, le Seigneur il a mis la barre très haute. Oui, par ces paroles, nous voyons l'étincelle de sa sainteté de Dieu, qui est très saint. Comme le psalmiste dit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Si, par la parole de Dieu, nous pourrons imaginer combien Dieu est saint, et nous devrions aussi imaginer combien il est encore plus saint, c'est ce que nous voyons dans la page de la Bible, c'est des étincelles. On ne peut pas pénétrer dans la sainteté de Dieu. L'apôtre Paul, il a dit, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée de Dieu, la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il l'ait à recevoir en retour? C'est de lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Et c'est difficile à saisir quand le Seigneur il parle. Et en Jean 16, 12 à 13, nous voyons que Jésus, il a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Donc, comme nous commençons à voir ce passage, Nous savons que sans l'aide de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas comprendre ce que le Seigneur il veut de nous. Ce que le Seigneur il veut nous enseigner par ces quelques versets. Oui, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre sa parole. On dit que la Bible est le seul livre où son auteur est à notre côté quand nous lisons son livre, ce livre qu'il a écrit. Chaque fois que nous ouvrons la page de la Bible, nous devrions connaître que son auteur, il est à notre côté pour nous apprendre, pour nous enseigner. Nous avons notre texte à étudier devant nous. Pour mieux apprécier et comprendre ce texte, nous devrions le placer dans son contexte. Jésus, dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, est en train de déclarer les préceptes de son royaume. Et nous savons que chaque évangéliste, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils donnent ce portrait de Jésus-Christ dans les différentes facettes. Et Matthieu le décrit comme le roi, et Marc comme le serviteur, et Luc comme le fils de l'homme, et Jean comme le fils de Dieu. Et Matthieu, je pense qu'on devrait, tout le temps quand on lit ce évangile de Matthieu, nous ne devrions pas oublier que Jésus est le roi. Jésus est le roi. Et même dans le passage de ce matin, nous avons vu qu'il parle de son royaume encore, dans le chapitre 13. Et Jésus, dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, est en train de déclarer les préceptes de son royaume, la constitution de cette nation sainte, une race élue, une sacerdoce royale, un peuple acquis. Son royaume est composé de son peuple. Et ce que nous lisons en 1 Pierre ou 2 Pierre, comme la déclaration de l'indépendance des États-Unis ou la déclaration de la droit de l'homme, ces déclarations, ils sont des choses à dire. Et donc, pour expliquer comment ce sera. Le roi du ciel, venu sur la terre dans une forme humaine, enseigne ici à ses disciples, précisément, et aussi pour les autres, la nature de son royaume. Leurs normes supérieures qui vont gouverner son royaume. Le code de la conduite morale de son peuple qui sera les citoyens de son royaume. Le peuple juif a réduit le royaume de Dieu à une splendeur et une puissance visible. Ils ont oublié la justice de Dieu. En Isaïe, je vais lire pour vous, en Isaïe 11, versets 4 à 5, nous lisons ainsi, « Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. » Mais ils sont pensés à la gloire et la splendeur, mais ils sont oubliés qu'il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur le malheur de la terre. Malheureux de la terre, pardon. Ils ont réduit la justice de Dieu à des cérémonies religieuses à observer, et pour cela, le peuple juif a rejeté Jésus, le roi de son royaume. Nous savons pourquoi ils ont rejeté le roi des Juifs, le roi qui est venu ici sur cette terre, parce que ça ne le convenait pas. Ils ont réduit le précepte de Dieu, ce que Dieu voulait faire, à des rituels et des cérémonies à observer jour après jour, pendant des siècles. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis, nous sommes à Matthieu 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi, je vous dis, dit Jésus. On y répète la fameuse opposition. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, et moi, je vous dis, je vous le dis. L'opposition qui n'est pas l'abolition, mais le dépassement. Notre texte nous introduit la deuxième moitié de six antithèses. Mais dans le passage avant et après, nous avons six antithèses. Nous avons une première série de trois antithèses. Et nous avons vu avec le frère Albert, je crois, meurtre et réconciliation, et adultère et scandale. Et la semaine dernière, nous avons vu la répudiation ou divorce, le verset 31-32. Et aujourd'hui, nous allons voir le serment 33-37. Et la cinquième, c'est le talion, c'est-à-dire la rétaliation. Et le sixième, l'amour des ennemis. Aimez vos ennemis comme vous-même. Donc, il y a six antithèses. Il y a tout d'abord dans ce chapitre une affirmation clé à laquelle toutes les parties du sermon se rattachent comme des illustrations. Regardez le verset 17, Matthieu 5, 17. Et Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophéties. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à que tout soit arrivé. » Donc, quand nous voyons cette déclaration de Jésus-Christ, on peut penser que Jésus, il veut tout changer. On dit souvent que, même parmi les chrétiens, l'Ancien Testament, c'est complètement différent que le Nouveau Testament. Oui, nous sommes sous la Nouvelle Alliance, mais c'est la continuité de l'Ancien Testament. Si on enlève l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne peut pas être compris. Et Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophéties. Je suis venu, non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous voyez la précision? Mais Jésus, dans notre texte, il dit, « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Et nous comprenons par ce passage, par le verset 17, que Jésus n'est pas en train d'abolir ce qui a été donné avant. Jésus n'enseigne pas une doctrine qui contredit la loi de l'Ancien Testament donnée par Moïse. Ainsi donc, ces choses ne doivent surtout pas être comprises comme les contradictions, comme des contradictions. Justement compris, l'enseignement spirituel et moral du Christ ne consiste donc pas à bâtir un nouvel édifice aux côtés de ruines d'un ancien qui serait en l'occurrence l'enseignement de Moïse, mais plutôt à accomplir, à mener à son plein épanouissement l'édification du premier. La relation entre l'enseignement de la loi et de l'évangile doit être pensée sur le mode de la continuité et de l'accomplissement. La relation entre l'enseignement de la loi et de l'évangile doit être pensée sur le mode de la continuité et de l'accomplissement. Il y a des gens qui disent qu'il y a des contradictions dans la Bible. Parfois, ça apparaît qu'il y a des contradictions. Par exemple, dans le livre de Roi, je crois, le serviteur, le soldat qui vient raconter à David sur Saul, il y a une contradiction apparente. Mais après, quand on lit dans les autres livres, on sait que lui, il a menti. Donc, Nous ne devrions pas arrêter tout d'un coup quand on voit une contradiction. Et la Bible ne peut pas contredire elle-même. Il y a des gens qui... un royaume ne peut pas opposer son propre royaume, dit Jésus. Un roi peut-il parler contre lui-même? Ce qui est d'esprit, et ce qui est de chair, est de la chair. Et l'homme charnel peut-il comprendre la parole de Dieu? Je pense que chaque fois, quand on ouvre la parole de Dieu, nous devrions avoir l'humilité pour comprendre que l'homme charnel ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Il est vrai que la prédication de l'Évangile éclaire les hommes d'une lumière nouvelle et inaccoutumée. Il est vrai que la prédication de l'Évangile éclaire les hommes d'une lumière nouvelle et inaccoutumée. Seulement, nous ne nous méprenons pas sur la nature de cette nouveauté. Juste parce que c'est nouveau pour moi, je ne peux pas dire que c'est faux. Et je continue dans le passage, Matthieu 5, 33-34. Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur ce que tu as déclaré par serment. Premièrement, cherchons ensemble dans l'Ancien Testament où il est écrit ainsi. Prenez en Deutéronome, tournez avec moi en Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6, versets 13 à 14. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre des dieux des peuples qui sont autour de vous. Et aussi en Deutéronome, chapitre 10, 20, si vous voulez, je peux lire. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et jureras par son nom. Je vous invite à observer les verbes dans ces deux versets. Nous trouvons craindra, servira, attachera, jurera. Ces commandements vont dans le même sens de la Décalogue. Il te le dit commandement. Tournez avec moi encore dans l'Ancien Testament de votre Bible. Exode 20, premiers 5 versets. Exode chapitre 20, les premiers 5 versets. Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, Dieu ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et on trouve le 10 commandements dans ce chapitre d'Exode 20. Le peuple de Dieu se devrait adorer et de se servir Dieu seul et demander de jurer uniquement par son nom, car il est le seul vrai Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu a dit à son peuple. Le peuple de Dieu ne doit jamais adorer, se prosterner devant des images taillées. C'est le deuxième commandement. Ou n'importe quelle forme, car Dieu est souverain sur toutes choses créées. Adorer ou servir d'autres que Dieu y avait, le vrai Dieu, et le placer à la place de Dieu, et jurer sur une personne ou quelque chose créé, c'est en faire une idole. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis éternel. Lévitique 19, 12. Dieu ne peut pas tolérer quelque chose qui profanerait son nom. Et celui-ci est lié avec le troisième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tous ces passages que nous lisons avec le contexte de Matthieu 5, verset 33, c'est dans le même contexte que nous lisons tout cela. Le peuple d'Israël a été strictement averti de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire prendre avec légèreté, invoquer son nom dans les choses banales, utiliser le nom de Dieu en oubliant sa sainteté, son caractère. Invoquer le nom de Dieu dans un serment léger, où vous ne pensez pas garder vos paroles. Ces choses constituent une violation du troisième commandement. Donc nous pouvons comprendre que dans l'Ancien Testament, il était permis de jurer au nom de l'Éternel seul que dans les situations rares et particulières. Et il était censé être vrai et non pour les choses vaines. Prêter serment a été utilisé pour résoudre des disputes ou pour conclure des accords et des alliances et aussi pour confirmer la véracité des déclarations très importantes. En Hébreux 6, 16, nous trouvons « Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. » Quelques exemples dans l'Ancien Testament. Abraham et Abimelech firent alliance à Beersheba. Vous pouvez noter Genèse 21, 22 à 34. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Donc, ça existe dans l'Ancien Testament. Ils sont jurés. Mais dans le passage, nous avons vu que Dieu change tout. On va voir plus tard pourquoi. Et un autre exemple, Isaac et Abimelech jurèrent encore en confirmation de la même alliance entre Abraham et Abimelech. Genèse 26, 26 à 33. Il y a aussi d'autres exemples dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique, nous trouvons le sacrifice de paix pour l'accomplissement d'un vœu. Si un homme il fait un vœu, à l'accomplissement du vœu, il devrait faire un sacrifice. Se trouve dans le livre de Lévitique 7, 16. Et aussi, nous voyons que l'âne, Anne, le maman de Samuel, fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu souviens de moi et n'oublies point de ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » 1 Samuel 1, 11. Donc ça, c'était le vœu fait par des différentes personnes. C'est parfois entre deux personnes, deux hommes, et parfois avec Dieu. Et aussi, souvenez-vous, le vœu de Jephthé, qui devait sacrifier sa propre fille à cause d'un vœu qu'il a fait. si on veut, il a fait, il devrait tenir sa parole. Mais il devrait sacrifier sa propre fille. Et Dieu dit, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu et ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Et si on fait un vœu, et si on n'a pas accompli ce qu'on a fait, et ça devient un péché même. Deutéronome 21-23. Quand nous comparons ces versets de l'Ancien Testament avec Matthieu 5-33, nous ne trouvons aucun problème. Ça va très bien avec ce passage. L'erreur n'est pas dans la loi de Dieu, mais dans son application. La loi, ce n'est pas changé depuis les siècles, depuis que la loi a été donnée à Moïse, jusqu'à la temps de Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, depuis sa chute, a voulu toujours manipuler Dieu selon ses désirs pécheurs. Ça, on connaît. On souffre avec ça, même aujourd'hui. Depuis la chute, l'homme a voulu toujours manipuler Dieu. Nous devrions arrêter un peu pour faire une introspection. Est-ce que nous sommes en train de manipuler Dieu encore? Regardez dans l'Ecclésiaste 5, 4 à 5, je vais lire le passage. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à accomplir, car il n'aime pas les insensés. Non, faire un vœu, ce n'est pas interdit à l'époque. Mais ici, Ecclésiaste, il dit que car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un, de ne pas accomplir. C'est clair. La parole, même dans l'Ancien Testament, elle dit que tu peux faire un vœu, mais si tu peux tenir ta parole. Mais sinon, tu ne fais pas. Mais ce que les pharisiens, ils ont essayé de manipuler, ils ont essayé de faire, ils ont un peu truqué les choses, ils essayent de montrer au peuple, aux autres, qu'ils gardaient le vœu. Et donc, ils sont parjurés au nom de Dieu, mais sur n'importe quelle chose se crée. Dieu est Dieu. Ne jouons pas dans la main de Dieu. Pouvons-nous conclure que jurer au nom de Dieu ou faire un vœu était permis dans l'Ancien Testament? Regardons en Hébreux 6, 13, 14. Épître aux Hébreux 6, le verset 13 à 14. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est clair. Oui, Dieu fait la promesse car il est souverain. Dieu, il peut faire la promesse, il peut faire un vœu. Il peut jurer car il est souverain. Il est tout puissant. Il a la capacité pour accomplir tout ce qu'il peut promettre. Dieu seul a la capacité pour promettre des choses, pour dire que je ferai certainement ça, cela. Et il était permis pour les hommes pour faire un vœu ou jurer seulement au nom de Dieu. Et ça, c'est une condition. Celui-ci montre sa dépendance sur Dieu, le Tout-Puissant, pour lui aider à accomplir ses vœux. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a strictement interdit de jurer au nom des autres dieux païens. Parce que les païens, ils faisaient les choses ainsi. Ils juraient au nom de dieux qui ne sont pas des dieux, qui ne peuvent rien accomplir, qui ne peuvent rien faire. Mais Dieu, il a interdit son peuple de jurer au nom de dieux païens. Il a dit que si tu es sérieux, tu peux jurer, tu peux prendre le nom de Dieu. Et après, nous connaissons le commandement, on ne peut pas prendre le nom de Dieu en vain. On ne peut pas utiliser le nom de Dieu en vain. Si nous portons, nous portions le nom chrétien, est-ce que nous ne sommes pas en train d'utiliser le nom de Christ? Et comment, quelle manière nous sommes en train d'utiliser le nom de Christ? Ça ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Et si un monsieur de l'Ancien Testament, il devrait jurer au nom de Dieu, ça montre sa dépendance totale, complète, sur Dieu. Il peut jurer beaucoup de choses. Il peut jurer que je te donnerai 100 kilos de farine. Mais si Dieu ne le fait pas pleuvoir, il n'aura pas de récolte. Il ne peut pas faire. Donc l'homme, il devrait dépendre entièrement sur Dieu pour accomplir ses promesses. Revenons maintenant à notre texte de Matthieu 5, 34, qui dit: mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est la trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Et donc Jésus il dit, vous êtes en train de jurer au nom de n'importe quoi. À tout ce qu'on trouve dans la rue, vous jurez. Les Juifs, ils juraient sur le ciel, au nom du ciel, et sur le trône de Dieu, comme ce qu'ils possédaient, et sur la terre, et sur Jérusalem, la cité sainte, et aussi sur leur tête. Mais aujourd'hui, même aujourd'hui, souvent nous trouvons dans la rue. Je te jure, je ne sais pas comment on dit ça. Les gens, ils jurent. Ils jurent. Ils disent que je te promets. Ils jurent sur leur mère, leur père. Et tout ce qu'ils peut-être trouvaient sérieux ou précieux, mais en fait, ce n'est pas précieux pour eux, sinon ils ne le feront pas. Mais moi, je vous dis, je ne jurerai aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Comment l'homme, il peut prétendre de jurer par le ciel? Il est sur la terre. Il est destiné à la perdition. Et lui, il est en train de jurer au nom du ciel, par le ciel. Mais Dieu dit, faites attention, c'est le trône de Dieu. C'est là que Dieu règne. Tu ne peux pas, même par ta pensée, tu ne peux pas toucher le trône de Dieu. Ce n'est pas toi qui juges les choses. Parce que c'est le trône de Dieu. Ni par la terre, parce que c'est son marche-pied. L'homme, il ne peut rien faire. L'homme, il devrait comprendre qu'il est impuissant. Il est impuissant. C'est la vérité. On ne peut rien faire, ni sur le ciel, ni sur la terre, ni par Jérusalem. Parfois, on prend la sanctité de Dieu, on vole la sanctité de Dieu pour manipuler, pour utiliser à notre manière. On peut voler la sanctité de Dieu, on ne peut pas, mais on essaie. On essaie de voler la sanctité de Dieu pour utiliser à notre manière. Et ne jurez pas non plus par la tête, par ta tête, pardon. Et je pense que ce serait la dernière chose que je ferais, avec ce qui est dedans, je ne peux pas jurer sur ma tête. Et je ne sais pas comment les gens, ils peuvent jurer sur leur tête ou sur la tête de quelqu'un d'autre. Notre intelligence est tellement limitée et notre vie est tellement fragile. Jurer sur la tête. Et Jésus dit, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Celui qui a compté sur les cheveux sur la tête de chacun, il dit que tu ne peux rien faire, tu ne peux pas changer la couleur de tes cheveux. Jésus, dans son serment sur la montagne, nous amène dans une nouvelle hauteur, dans le règne spirituel, une nouvelle dimension. La question n'est pas de jurer ou pas. Il parle ici de la futilité de jurer même. Et jurer sur qui ou sur quoi? Et cela servira de quoi si tu ne dis pas la vérité? Et pourquoi quelqu'un devrait jurer? Pourquoi on devrait jurer? Et le dernier verset, Jésus dit que votre oui soit oui, non, non. Et pourquoi les hommes, ils essaient de jurer? Ne jurez pas non, que votre parole soit oui, oui, non, non. Et ce qu'on ajoute vient de malin. Et pourquoi nous devrions parfois, je trouvais ça très étrange et merveilleux aussi, de savoir que Jésus il est en train de parler d'adultère, de meurtre, de grands péchés que dans le 10 commandements, si on voit que c'est les choses qui nous frappent, c'est tuer quelqu'un ou commettre l'adultère, c'est un grand péché. Mais juste après, il parle de notre façon de parler, nos paroles. Si l'adultère, c'est un péché qu'on commet par nos yeux, et ça, c'est le péché qu'on commet avec notre langue, avec notre parole, par notre bouche. Et pourquoi Dieu a pris ça aussi sérieusement? Je pense que si nous allons rester un peu pour imaginer, la plupart de notre péché sort par notre bouche. Si vous allez comprendre quelqu'un ou parler avec la personne pendant 5 minutes, vous pouvez savoir quel type de personne il est. Est-ce qu'il dit la vérité ou pas? Si quelqu'un va jurer plusieurs fois, peut-être il essaie de cacher quelque chose. Sinon, il n'a pas besoin de jurer ainsi. Est-ce que toujours, dans notre parole, nous disons oui pour un oui et non pour un non? Parfois, la vérité, on tire droite et gauche comme ça. Ça devient long. Mais le problème, c'est quand on tire la vérité, ça en devient le mensonge. Vous savez comment? Laissez-moi donner cette illustration. Si en venant à l'église, nous avons vu un accident, vous arrivez ici à la porte, vous allez dire à quelqu'un, « Ah, il y a un accident. J'ai vu 4 voitures, mais peut-être que vous avez vu 2 voitures. Mais des autres voitures étaient arrêtées à côté. » Après, on peut aussi dire que j'ai vu quelqu'un tomber par terre, peut-être il est mort. Mais sans savoir, nous avons une façon d'exagérer les choses et la vérité devient le mensonge. Mais le Seigneur, il dit que votre oui soit oui. Je pense que c'est difficile, mais nous devrions faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais combien de fois nous avons exagéré la vérité? Combien de fois? Parce que c'est inné en nous. Hein? C'est inné en nous de mentir. Et Abraham, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ou pas? Il a menti. La Bible dit qu'il a menti en Égypte. Mais il a dit la vérité parce que c'était quand même sa demi-sœur, Sarah. Mais il a dit la vérité. Mais est-ce que c'est un oui? Un simple oui? Ou il a manipulé? Et nous sommes rien du tout pour pointer le doigt à Abraham. Et nous savons, moi je sais combien de fois je tombe dedans. Peut-être c'est des petites choses, mais petites choses qui amènent de grandes choses à l'intérieur. Le petit mensonge qui fait rien du tout, qui fait pas mal aux autres. Si, ça fait mal à toi. Le petit mensonge, il fait mal à toi. Je pense que dans la Cantique des Cantiques, il y a un verset qui dit « Prenez le petit renard qui ravage nos vignes. Prenez le petit renard pour nous qui ravage nos vignes, car nos vignes sont tendres et fleurissent, quelque chose comme ça. » Et si nous n'allons pas mettre la barrière pour ces petits péchés qui peuvent entrer dans notre vie, ça peut ravager notre vie spirituelle, notre vie de sanctification. Et c'est pourquoi Jésus dit que votre oui devrait être oui seulement. Et non, ça devrait être un non. Et je pense qu'en tant que chrétien, nous devrions vraiment faire attention à nos paroles, de comment, la manière de parler, notre manière de parler. Même entre les chrétiens, disons pas, ça c'est autre chose. Quand on parle avec les non-chrétiens, on est encore pollué. On apprend très vite leur manière de parler. Mais avec les chrétiens, on a une certaine manière de parler. Même ça, je pense que c'est parfois difficile. On ne dit pas exactement ce que nous devrions dire. Et parfois, on peut, notre oui, ce n'est pas oui, parce qu'on a peur des hommes. On a peur de ce qu'ils vont penser de moi. Donc, j'essaie de chercher la feuille de figuier pour cacher ma nudité. J'essaie de me montrer meilleur que je suis, meilleur que ce que je suis. Et nous, on a peur de notre image. Mais c'est Dieu qui vous dit de dire oui pour un oui. Et qu'est-ce que nous craignons? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Un homme qui a peur de Dieu ne devrait pas avoir peur des autres hommes. Si on a vraiment peur de Dieu, nous devrions garder ce verset dans notre cœur toujours, que votre oui soit oui et non soit non. Et nous devrions penser que non, c'est Dieu qui me demande d'être comme ça. Je n'ai pas besoin de cacher mon image, mais en même temps, je vais faire tous les efforts possibles que ce soit vrai. Et avec quand le cœur est plein, la bouche parle. Est-ce que notre cœur est rempli de la vérité ou pas? S'il y a des choses qui n'est pas vraie dans notre cœur, nous devrions enlever ces choses de notre cœur. Ça ne devrait pas prendre place dans notre cœur. Et quand on jure sur quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Nous incluons cette personne comme témoin à notre vœu. Quand vous jurez sur quelqu'un, cette personne elle est témoin. Mais est-ce que c'est vrai? Ou Dieu seul est témoin? Cette personne, il est là aujourd'hui, mais demain, il ne sera pas là. Et il est là comme témoin aujourd'hui, demain, il peut tourner contre moi. Et est-ce que je devrais jurer sur quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas éternel, qui ne peut pas témoigner contre moi ou pour moi? Et comment je peux prendre quelque chose pour jurer? Et nous devrions simplement comprendre que nous devrions garder nos pensées pures et nos paroles pures. Que ce soit vrai, nous devrions être les chrétiens vrais et pas des chrétiens qui sont dans l'ombre, qui changent de couleur quand il fait beau ou quand il ne fait pas beau. Quand on voit certains types de personnes et d'autres types de personnes. Et car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénible. dit Jean, 1 Jean 5, 3. Et pour atteindre la sanctification dans ces domaines, nous ne pouvons jamais atteindre par nos propres efforts. Mais on peut essayer par n'importe quel moyen, mais ce que ça sort, ça sort. Mais seulement l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu peut nous aider pour dire la vérité, pour dire simplement la vérité. Et en Galates 5, 22, 23, je vais lire, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Donc Jésus, par son sermon sur la montagne, il nous amène dans les hauteurs plus haut. Il place le bar plus haut. Ce n'est pas seulement les choses que jurer visiblement sur des choses, sur Dieu, prendre le nom de Dieu, ça peut nous amener d'être des bons chrétiens. Et Jésus l'a dit, vous êtes comme les tombeaux, tout beau dehors, mais à l'intérieur, c'est moche. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Colossiens 4, 6. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous aide à vraiment marcher selon sa volonté, de faire sa volonté à n'importe quel moment de notre vie. Que notre oui soit toujours oui. Que le Seigneur bénisse nous tous. Amen.